Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi l'accessibilité universelle nous concerne tous? Un texte de Carmela Cucuzzella et Béchara Elal, paru le 30 juillet 2025 dans La Conversation. L'accessibilité universelle profite à toute la société, bien au-delà des personnes en situation de handicap. Elle renforce la santé publique et stimule l'économie. Encore faut-il en faire une priorité. L'accessibilité, référence à la conception d'environnement, de produits et de services qui permettent aux personnes de toute capacité de participer pleinement à la vie quotidienne, est particulièrement cruciale pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les autres groupes marginalisés. Je suis doyenne de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, tandis que mon collègue, Béchara Elal, y est vice-doyen à la recherche et à la vie scientifique. Nous examinons comment l'accessibilité façonne la santé publique et le développement économique en nous appuyant sur des recherches et des études de cas pertinentes. Santé publique. Quand l'environnement devient un soin. La santé publique est étroitement liée à l'accessibilité. Lorsque les environnements sont conçus pour être exempts d'obstacles, les individus peuvent accéder aux services de santé, participer à des activités physiques et maintenir des liens sociaux, autant d'éléments qui contribuent au bien-être général. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, souligne que l'accessibilité aux établissements de santé est essentielle pour prévenir les disparités en matière de santé. Des obstacles tels que l'inaccessibilité des cliniques, le manque d'interprètes en langue des signes et les difficultés de transport empêchent les gens d'obtenir des soins en temps voulu, ce qui aggrave les maladies chroniques et entraîne une augmentation des coûts des soins de santé. En outre, l'accessibilité universelle dans la planification urbaine favorise les modes de vie actifs qui sont essentiels pour prévenir les maladies non transmissibles telles que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Par exemple, des environnements bien conçus et favorables aux piétons encouragent la marche et le vélo, réduisant ainsi le risque de maladies liées au mode de vie. Des parcs, des centres de remise en forme et des installations récréatives accessibles permettent aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées de pratiquer une activité physique, ce qui améliore leur état de santé général et leur qualité de vie. La santé mentale est également influencée par l'accessibilité. En 2024, l'American Psychological Association a annoncé que l'incapacité à naviguer dans les espaces publics ou à utiliser des services essentiels en raison d'obstacles physiques, sensoriels ou cognitifs peut conduire à l'isolement social, à la dépression et à l'anxiété. À l'inverse, les environnements inclusifs qui permettent de participer à des activités communautaires favorisent l'inclusion sociale, réduisent le stress et améliorent le bien-être mental. Une économie plus inclusive et plus forte. Au-delà de ses effets sur la santé, l'accessibilité universelle constitue un levier économique puissant. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, un environnement inaccessible freine la participation à la vie active, limitant ainsi les contributions économiques d'une partie importante de la population. Les personnes en situation de handicap sont confrontées à des taux de chômage plus élevés en raison de l'inaccessibilité ou de l'inadaptation des lieux de travail, ce qui entraîne une perte de potentiel économique et une dépendance accrue à l'égard des systèmes de protection sociale. Les investissements dans l'accessibilité de l'environnement bâti produisent des avantages économiques en améliorant la productivité et l'innovation. Selon un rapport de la Banque mondiale datant de 2019, l'économie mondiale perd environ 7 % du PIB chaque année en raison de l'exclusion des personnes en situation de handicap du marché du travail. Les entreprises qui mettent en œuvre des pratiques d'embauche inclusives et des aménagements sur le lieu de travail élargissent non seulement leur vivier de talents, mais favorisent également la diversité des points de vue, ce qui peut stimuler la créativité et la résolution de problèmes. En outre, les systèmes de transport accessibles améliorent la mobilité économique. Des transports publics adaptés aux personnes en situation de handicap leur permettent d'accéder à l'éducation, à l'emploi et aux activités sociales, contribuant ainsi à la croissance économique. Des études de l'OCDE datant de 2017 indiquent que les infrastructures de transport accessibles augmentent les taux d'emploi et réduisent la dépendance à l'égard de l'aide publique, ce qui renforce l'économie. L'industrie du tourisme bénéficie également de l'accessibilité universelle. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme note que le tourisme accessible génère des revenus importants en ciblant les voyageurs plus âgés et les personnes en situation de handicap. Les pays qui investissent dans des hôtels, des attractions, des espaces et des lieux publics accessibles, ainsi que dans des systèmes de transport, profitent d'un marché croissant de voyageurs à la recherche d'expériences inclusives, ce qui stimule les économies locales. Des modèles à suivre. Plusieurs pays démontrent concrètement les bénéfices de l'accessibilité. Par exemple, la Suède a créé une société inclusive dans laquelle les transports publics, les soins de santé et les lieux de travail sont adaptés aux personnes en situation de handicap. En conséquence, la Suède a l'un des taux de participation au marché du travail les plus élevés d'Europe parmi les personnes en situation de handicap, ce qui contribue à sa stabilité économique. Un autre exemple est celui du Japon, qui a investi massivement dans des infrastructures accessibles en prévision d'événements internationaux majeurs, tels que les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Les efforts déployés par le pays pour améliorer les transports publics, notamment les surfaces tactiles, l'accès en marche et les signaux sonores, ont permis d'accroître la mobilité de millions de résidents et de visiteurs, ce qui s'est traduit par des gains économiques à long terme grâce à l'augmentation du tourisme et de la participation de la main-d'œuvre. Au Canada, le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus continue de croître de manière exponentielle et devrait tripler au cours des 25 prochaines années, passant d'un million en 2026 à près de 3 millions en 2051. Il devient donc de plus en plus important de veiller à ce que nos futurs concepteurs, architectes, architectes paysagistes et urbanistes soient préparés à conceptualiser et à construire nos futurs espaces et lieux d'une manière inclusive et universelle. L'accessibilité, un choix stratégique pour l'avenir. L'accessibilité universelle est un facteur déterminant de la santé publique et de la prospérité économique. En supprimant les obstacles dans les soins de santé, les transports, les lieux de travail et les espaces publics, les sociétés peuvent améliorer les résultats en matière de santé, promouvoir l'inclusion sociale et stimuler la croissance économique. À mesure que le monde progresse en matière de technologie et d'infrastructures, il devient essentiel de placer la conception universelle au cœur des priorités pour construire des sociétés durables et inclusives pour les générations futures. Il faut élargir l'accès aux produits, services et espaces pour tous. Cela suppose des investissements dans les infrastructures, l'adoption de politiques d'emploi inclusives, des campagnes de sensibilisation du public, des innovations technologiques et des mesures législatives. Dans un contexte où la population canadienne vieillit, ces améliorations sont plus que jamais d'actualité. C'était Pourquoi l'accessibilité universelle nous concerne tous? Un texte de Carmela Cucuzzella et Béchara Elal, paru le 30 juillet 2025 dans La Conversation.
Est-ce la bombe atomique qui a forcé la reddition du Japon? Un texte de Magdalene Boutros, paru le 2 août 2025 dans Le Devoir. Chaque année est l'occasion de souligner des anniversaires d'événements aux chiffres ronds. Il y a 10 ans, comme il y a 100 ans, ils ont marqué la petite ou la grande histoire et trouvent parfois écho dans notre monde actuel. Dans ce texte sur les 80 ans des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, l'invasion de la Mandchourie par l'URSS et son rôle tout aussi déterminant dans la capitulation japonaise. Le débat historique a été nourri, parfois féroce. Au fil des décennies, différentes lectures de l'histoire se sont affrontées. Les deux bombes atomiques larguées sur le Japon les 6 et 9 août de 1945 ont-elles été déterminantes dans la reddition du pays? Et les États-Unis avaient-ils d'autres options que de lancer une arme de destruction massive contre des civils? Le Devoir s'est entretenu avec trois historiens spécialistes de cette question. Pour G. Samuel Walker, ex-historien de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis et auteur du livre « Prompt and Utter Destruction, Truman and the Use of Atomic Bombs Against Japan », il ne fait aucun doute que la bombe était nécessaire pour mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. C'était ça la principale motivation de Truman, dit-il au Devoir. Harry Truman venait d'accéder quelques mois plus tôt à la présidence des États-Unis lorsque la décision de lâcher l'arme atomique sur Hiroshima et Nagasaki a été prise. Mais un autre événement, méconnu et longtemps sous-estimé dans l'histoire, a été tout aussi déterminant dans la capitulation du Japon, l'invasion de la Mandchourie par l'Union soviétique. À l'été 1945, il était déjà acquis que le Japon était défait militairement, rappelle Tsuyoshi Hasegawa, professeur émérite d'histoire à l'Université de Californie à Santa Barbara et auteur du livre « Racing the Enemy, Stalin, Truman and the Surrender of Japan ». Mais le gouvernement japonais n'avait pas encore signé sa reddition. À la conférence de Potsdam, le 26 juillet 1945, les Alliés avaient réclamé la capitulation sans condition de la puissance asiatique, pays membre de l'Axe aux côtés de l'Allemagne et de l'Italie, qui avaient déjà baissé les armes. Cet ultimatum, qui impliquait possiblement une abolition du titre d'empereur du Japon, avait été rejeté par le pays, même s'il se savait vaincu. Pour les décideurs japonais, la préservation du système impérial était une priorité absolue, explique Tsuyoshi Hasegawa. Et leur unique espoir pour préserver cette institution et négocier la fin de la guerre était une médiation de l'Union soviétique, ajoute-t-il, puisque l'URSS maintenait encore la neutralité avec le Japon à ce moment-là. Le choc a donc été total lorsque, le 9 août 1945, l'URSS a déchiré son pacte de non-agression avec le Japon et lancé son offensive sur la Mandchourie, un vaste territoire du nord-est de la Chine occupé par le pays du soleil levant depuis 1931. Ils ont été totalement surpris. Leur dernier espoir avait disparu. Trois jours plus tôt, malgré l'anéantissement de Hiroshima par Little Boy, nom de code donné à la bombe atomique larguée le 6 août 1945, le gouvernement japonais avait maintenu le cap. Plutôt que de se rendre, ses représentants avaient envoyé de toute urgence un câble diplomatique à Moscou pour réclamer une réponse de l'URSS à leur requête de médiation, relate Tsuyoshi Hasegawa. En d'autres termes, même après la bombe de Hiroshima, ils ont continué à s'en tenir à la médiation soviétique, souligne-t-il. Ce qui fait dire à l'historien que c'est l'entrée en guerre des Soviétiques qui a été le facteur le plus décisif dans la reddition du Japon. Plus que la première bombe atomique et plus que les deux bombes atomiques combinées. Une combinaison nécessaire? Une position que tempère G. Samuel Walker. Le choc de Hiroshima, puis la pulvérisation de Nagasaki trois jours plus tard, le 9 août 1945, par la bombe baptisée Fat Man, n'aurait probablement pas été suffisant à eux seuls pour forcer la reddition immédiate du Japon, concède-t-il. Rappelons qu'en mars 1945, les dirigeants japonais n'avaient pas bronché lorsque les États-Unis avaient largué des bombes incendiaires au napalm sur Tokyo, terrorisant la population et faisant jusqu'à 100 000 morts chez les civils, presque autant que le nombre de victimes comptabilisées à Hiroshima, 70 000, et à Nagasaki, 40 000, le jour des explosions. Mais il est impossible de distinguer quel événement est le plus important entre les bombes atomiques et l'invasion de la Mandchourie par l'URSS, fait valoir l'historien. Ce qu'il a fallu, c'est une combinaison des deux pour finalement convaincre l'empereur du Japon que la guerre devait cesser. Ce rôle de l'URSS dans la reddition du Japon est pourtant peu présent dans la version de l'histoire retenue en Occident. Les Américains ne connaissent pas bien cet épisode, reconnaît M. Walker. Et ce n'est qu'au cours des 20 ou 25 dernières années que les historiens se sont vraiment concentrés sur ce sujet. Tsuyoshi Hasegawa ajoute que l'utilisation de l'arme atomique contre des civils a profondément entaillé la conscience états-unienne. Les Américains veulent donc croire que c'était inévitable et que c'était décisif, parce que c'est une façon de gérer une certaine culpabilité, estime-t-il. Vengeance et puissance. Selon G. Samuel Walker, lorsque le président Truman a pris la décision de recourir à cette arme dévastatrice, les répercussions à long terme n'ont été que peu ou pas considérées. Personne, et certainement pas Truman, ne pensait au-delà de la fin de la guerre. Les États-Unis venaient tout juste de remporter la course à l'arme atomique. La bombe au plutonium utilisée à Nagasaki avait été testée seulement quelques jours plus tôt, le 16 juillet 1945, et celle à l'uranium employée à Hiroshima n'avait pas nécessité de test. Le traumatisme de Pearl Harbor, l'attaque surprise des Japonais contre la flotte états-unienne du Pacifique en décembre 1941, était encore très frais dans la mémoire. Il y avait certainement un élément de revanche, croit Samuel Walker. À l'époque, aussi, les Japonais étaient perçus comme profondément inhumains en raison de leur traitement brutal des prisonniers de guerre. Ces facteurs ont eu un impact considérable sur l'opinion publique américaine, ajoute Tsuyoshi Hasegawa. Pour certains historiens, le recours à l'arme atomique se voulait aussi un message d'intimidation et de puissance envoyé par les États-Unis à l'URSS, les contours de la guerre froide commençant à prendre forme. Selon Yuki Tanaka, ex-professeur émérite d'histoire à l'Hiroshima Peace Institute, université de la ville de Hiroshima, l'utilisation de la bombe nucléaire n'était pas stratégiquement nécessaire, mais plutôt motivée par des raisons purement politiques. En utilisant cette arme de destruction massive, le président Truman cherchait à démontrer son immense puissance à l'Union soviétique et à l'empêcher de déclarer la guerre et d'envahir le Japon, analyse-t-il, ajoutant qu'il cherchait ainsi à limiter l'influence de l'URSS en Asie. Les autres options. Même si le sujet a été longtemps débattu, les trois historiens s'entendent pour dire que les États-Unis avaient d'autres options que d'utiliser l'arme atomique pour obtenir la reddition du Japon. L'une des possibilités était de continuer à bombarder le Japon, à maintenir le blocus naval et à organiser un débarquement. Mais nous avions déjà causé d'énormes dégâts et, pourtant, le Japon ne se rendait pas, souligne G. Samuel Walker, ajoutant que cette option aurait signifié d'énormes pertes humaines pour les Alliés. Une autre option aurait été de négocier la capitulation du Japon en lui permettant, plutôt dans les discussions, de maintenir le système impérial, fait valoir Yuki Tanaka. Mais la crainte était que cette offre soit perçue comme une faiblesse, souligne M. Walker, et que les Japonais décident de continuer à se battre pour obtenir encore plus de concessions. Une troisième possibilité était d'attendre l'engagement militaire de l'URSS. Staline avait promis à Roosevelt d'entrer en guerre dans les 3 mois suivant la fin de la guerre en Europe, détaille l'historien. Mais c'était encore spéculatif et cela allait accroître l'influence soviétique en Asie. Au bout du compte, ces options ont été étudiées puis sciemment écartées par le gouvernement Truman, résume Tsuyoshi Hasegawa. Mais oui, d'autres solutions que l'arme atomique existaient pour obtenir la reddition du Japon. C'était « Est-ce la bombe atomique qui a forcé la reddition du Japon? » Un texte de Magdalene Boutros, paru le 2 août 2025 dans Le Devoir.
Trottinette électrique, micro-mobilité et désobéissance civile, un texte d'Alain Mekena, paru le 2 juillet 2025 dans La Presse. On aura beau sortir le Québec de son char, dit l'adage, il est pas mal plus difficile de sortir le char du Québécois. Pendant qu'on ergote sur des unités de mesure ésotériques comme le nombre de ponts par habitant, la vraie révolution est celle de la micro-mobilité. Malgré des autorités indifférentes, la trottinette électrique est en plein essor. Les fabricants de trottinettes électriques disent que leurs ventes sont en hausse constante depuis avant la pandémie. Parcourir les routes secondaires, les rues et les ruelles autrement qu'en automobile permet d'en témoigner. Les trottinettes sont populaires dans la province. Beaucoup sont électrifiées. Elles sont souvent pilotées par les plus jeunes voyageurs de la route, de 14 ans ou moins. Ils ne sont pas rares à être deux à se partager l'étroit plateau de ce diminutif véhicule non moins étriqué. Ils portent rarement un casque et utilisent la pleine largeur de la route comme s'il n'y avait pas de lendemain. Au Québec, c'est en bonne partie interdit. Les trottinettes électriques doivent être pilotées par des personnes de 14 ans ou plus, casque sur la tête, une personne à la fois, là et seulement là où il est déjà permis de circuler à vélo. Lancement en rafale. C'est peut-être un fossé de génération. C'est peut-être complètement autre chose. Les détaillants, eux, flairent la bonne affaire. Segway et Best Buy Canada viennent de lancer la nouvelle trottinette électrique Ninebot F3 Pro. Leur but? Séduire les utilisateurs. L'effet secondaire? Faire râler les législateurs. Car la F3 Pro ne respecte pas, dans leur sens le plus strict, les règles édictées par le gouvernement du Québec pour ce qu'il appelle des appareils de transport personnel motorisés. La F3 Pro est un produit vendu un peu partout sur la planète et dont la version canadienne ne diffère pas des autres. Moteur roue de 1200 watts, 4 modes de vitesse allant jusqu'à 32 km/h, suspension hydraulique aux deux roues, pneus de 10 pouces à l'épreuve de la plupart des crevaisons, petit affichage TFT bien contrasté avec jumelage Bluetooth à un téléphone pour un verrouillage sûr à l'arrêt avec alarme, intégration de la navigation routière, etc. L'appareil fait 16 kg. C'est portable, mais pas léger. Ses dimensions sont aussi relativement imposantes. Ses deux freins ont du mordant, mais requièrent un ajustement dès la sortie de la boîte, car par défaut, ils sont un peu mous. On peut activer un clignotant quand on prend un virage, mais le phare, de soir, pourrait être plus lumineux. Son autonomie varie de 40 à 70 km par charge, peut-être un peu moins selon les conditions de la route, la météo et même la personne au guidon. Une pile d'appoint qui pourrait, ou pas, Segway est incertaine, être commercialisée à l'automne 2025, promet d'en doubler le rayon d'action, ce qui semble très alléchant. Bref, c'est 1 200 $, mais c'est la totale. On dira ce qu'on voudra de la marque Segway, la F3 Pro est possiblement sa trottinette la mieux conçue pour zigzaguer entre les nids de poules urbains du Grand Montréal et pour traverser les ponts d'étagement de banlieue où on a oublié l'existence d'autre chose que les VUS à la carrure d'un char d'assaut. Pour Best Buy et Segway, le lancement de la F3 Pro est une étape dans une stratégie plus large pour mieux s'imposer dans le marché canadien de la micro-mobilité. Les deux partenaires comptent à leur catalogue la Ninebot E2 et un autre modèle à venir, l'E3, qui coûte respectivement 600 $ et 700 $. Ces modèles sont indiqués pour les jeunes cités plus haut qui préfèrent la trottinette au vélo. Duralex. Pour éviter une éventuelle contredanse, le pilote d'une F3 Pro devra toutefois limiter sa vitesse à 25 km/h et sa puissance motrice à 500 watts, puisque c'est la loi. À voir défiler les trottinettes électriques déjà sur la route, on doute que ce soit toujours respecté. On peut lancer la pierre aux utilisateurs ou blâmer Segway, mais il se vend déjà en toute légalité d'autres types d'appareils de transport personnel, eux aussi motorisés, qui font 300, 400 ou 700 chevaux et qui peuvent circuler à 294 km/h sans casque, même si la loi est autrement plus sévère. Certaines villes et régions du Canada encadrent sévèrement l'usage de trottinettes électriques. Avec raison, le risque de blessure est plus élevé qu'en vélo, notamment. Les véhicules les plus nombreux à circuler à bien plus que 32 km/h dans les zones scolaires et aux intersections ont généralement 4 roues et pèsent 2 tonnes, cela dit. En dépit de tout ça, la micro-mobilité continue de s'imposer sur les routes. La loi est dure, mais les fabricants et les acheteurs de trottinettes continuent d'avancer. C'était Trottinette électrique, micro-mobilité et désobéissance civile, un texte d'Alain Mekena, paru le 2 juillet 2025 dans la presse.